Vous êtes sur RTL.
18h38, le deuxième invité de RTL Soir, Stéphane Carpentier.
L'invité de RTL Soir est ce vendredi Samuel Le Bihan. Bonjour à vous Samuel.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir, acteur, réalisateur et désormais romancier. Pardon d'attaquer là-dessus, mais pourquoi
d'un coup, pourquoi un roman pour la liberté dans l'écriture. On met le décor qu'on veut, on a envie de s'attarder sur une odeur, sur une lumière, un reflet. Cette liberté de déplacer ces personnages comme on l'entend, de les faire jouer comme on le veut et de les interpréter les uns les autres, c'est ça surtout. C'est-à-dire que c'est l'histoire de Laura, c'est une femme et Laura, je l'ai interprétée tous les jours. À 5h du matin, je me levais, j'aimais bien parce qu'il faisait nuit, j'étais seul et c'est le moment où j'ai interprété Laura tous les jours.
Ça faisait un petit moment que ça trottait dans votre tête, le fait d'écrire ?
Cette histoire trottait cette dans envie. Ma tête... Ouais. Écrire, je le faisais toujours un petit peu. J'ai toujours écrit et mes copains aimaient bien ce que je faisais. Et puis, ça a été surtout la rencontre avec Charlotte Ponce, qui a un atelier d'écriture qui s'appelle Engrenage et Fiction. Et c'est elle vraiment qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a challengé, qui m'a pas lâché, qui m'a dit maintenant, faut sortir tes tripes.
Laura, c'est une jeune maman de deux garçons, César et Ben.
Oui.
L'un des deux est autiste et vous allez nous raconter sa vie, son parcours, ses combats face à cette maladie. On le sait, c'est de notoriété publique que ça vous touche aussi directement. Mm-hmm. Pourquoi avoir choisi de le romancer ?
J'avais envie d'une histoire d'amour. J'avais envie de cette quête de bonheur, d'une femme héroïne, d'une histoire d'une famille qui soit pas la mienne. J'avais pas envie de me raconter. J'avais envie de raconter une fiction et de me livrer intimement à travers un personnage comme je le fais au cinéma, au théâtre. C'est mon outil de travail, le masque.
Pourquoi avoir choisi une femme ?
Parce que peut-être elles sont plus combatives, peut-être qu'il y avait une espèce d'héroïsme que j'aimerais avoir parfois, mais qui, j'ai envie de dire, si en 30 ans la France a pu bouger sur le domaine, c'est si les lignes ont pu avancer, c'est grâce aux femmes, c'est grâce aux maires qui ont monté des associations, qui ont ramené des méthodes des États-Unis, qui sont battues pour se faire entendre, pour amener leurs enfants à l'école, et c'est l'histoire de Laura, et elle symbolise toutes ces femmes.
Il y a 246 pages, Samuel, dans votre roman. Quel est son plus gros combat ? J'ai pas envie qu'on raconte tout aux auditeurs, qu'ils iront directement dans le livre, parce qu'il se passe plein de choses.
Ouais.
Son plus gros combat, c'est quoi ?
De tout.
Ouais.
Ben, cette quête de bonheur. C'est-à-dire cette femme qui veut se réaliser aussi en tant que femme. La base de cette histoire, c'est cette mère qui se bat pour scolariser son enfant, alors que c'est un droit, c'est une obligation. Et on découvre que pas pour tout le monde. Beaucoup en sont exclus. Et c'est surtout pouvoir se réaliser en tant que femme, être heureuse, rencontrer quelqu'un. Le droit à la jouissance, le droit à l'orgasme, c'est-à-dire qu'à un moment, voilà, elle fait l'amour et c'est elle a un corps aussi, elle a besoin d'être aimée, elle a besoin d'aimer. C'est cette réalité qui fait que une mère seule avec les enfants, ça devient plus compliqué de s'accomplir. Et j'avais envie que cette femme trouve le bonheur absolument. Mmh. Je voulais que ces combats soient comme des challenges qu'elle arrive à relever et qui vont lui permettre d'accéder au bonheur. Elle va changer. Elle va apprendre aussi. Elle va apprendre aussi une autre forme de tolérance.
Il y en a de l'amour dans ce livre.
Oui. Je voulais que ce soit drôle parce qu'elle est drôle quand même. Elle est insolente. Elle est décalée. Et en même temps, évidemment, c'est émouvant parce que quelqu'un qui se bat, c'est toujours émouvant.
C'est un bouquin, un livre, un roman très positif au final.
Ouais. Hein,
c'est vrai. Ça aurait pu être un coup de gueule sur le fait que les autistes n'aient pas leur place dans la société d'aujourd'hui
que la France est 30 ans de retard. Oui, ça aurait pu être un coup de gueule. Et je me dis qu'aujourd'hui, j'avais envie d'expliquer ce que c'est, mais à travers une vraie histoire, un vrai roman, des vrais personnages auxquels on s'attache, pour lesquels on a une vraie empathie, c'est la méthode douce. Et puis, il se trouve que, oui, là-dessus, je suis en train de travailler à créer une association qui s'appelle Autisme Info Service. Donc, c'est une plateforme au service des familles, des accompagnants, des autistes eux-mêmes, qui est une plateforme d'écoute téléphonique, mais aussi un carrefour d'informations, de conseils, d'orientation aussi vers différentes associations adaptées. Aujourd'hui, ça manque terriblement. On manque de cet outil-là, ce numéro de téléphone qui nous permet aujourd'hui de concentrer toute l'information qu'on peut trouver en France.
Ça n'existe pas dans notre pays ?
Non, pas chez nous. Quelque chose qui centralise tout n'existe pas.
Vous l'espérez pour quand, cette plateforme ?
Début avril, l'idéal, ce serait de pouvoir l'ouvrir le 2 avril, qui est la journée mondiale de l'autisme. Aujourd'hui, on est dans le calendrier. On est un petit peu en retard, mais ça va, quoi.
Vous dites que notre pays a 30 ans de retard en la matière.
Mm-hmm.
Est-ce que ce n'est pas au gouvernement de faire ça ?
Si, alors...
comme que c'est le gouvernement avant.
Absolument. Je pourrais être là et dire voilà, le pouvoir, c'est le bulletin de vote. Et je pense que le pouvoir, c'est aussi l'associatif. Je pense que c'est des outils pour transformer la société et approcher le gouvernement d'une autre façon, en leur disant voilà, on a une solution. Maintenant, faut nous aider. Donc, idéalement, ce serait d'entraîner le gouvernement, mais que ça appartienne aux parents. Finalement, on est les meilleurs dans le domaine pour exactement définir les contours de ce qui est indispensable, ce qui est nécessaire, ce qui fonctionne aussi surtout.
Je reviens à Laura, l'héroïne de votre roman, Samuel Le Billon. Il y a quelque chose de vous dans ce personnage.
Oui, complètement. Tout ce qu'elle vit, c'est moi. Mmh. J'ai pris ce personnage, ce rôle qu'on ne me donnera jamais, cette maman. Ou alors, faudra bosser un peu tordu quand même. mais pour délivrer quelque chose qui est peut-être une part de ma féminité, je sais pas, mais en tout cas, me raconter moi, dans ce que j'avais de plus intime.
Vous, c'est votre fille qui est autiste, c'est ça, Samuel.
Ouais, ouais.
Vous l'avez découvert comment on le visualise,
alors c'est l'histoire de Laura hein, quand elle raconte comment elle s'aperçoit que son enfant est autiste, c'est en la voyant jouer avec d'autres enfants aussi. Et je savais, je me dis, il y a quelque chose d'étrange. Elle montrait pas du doigt, le langage ne venait pas. Les objets, elle les regardait ou pour leurs sensations, une sorte d'émotion étrange que ça pouvait lui créer, mais pas du tout pour les outils qu'ils étaient. Et effectivement, je voyais à travers d'autres enfants qu'il y avait quelque chose qui collait pas. Et c'est un questionnement, une souffrance silencieuse. Et on aimerait se tromper. Et puis finalement, les choses se révèlent les unes après les autres. Et on comprend que son enfant n'aura pas la même chance que les autres. Et à ce moment-là, j'ai pas eu un accablement, mais j'avais une grande, grande tristesse. Vous savez, quand on met au monde un petit être, on a juste envie qu'il ait toutes les chances de pouvoir se créer un bonheur. Et de se dire que finalement, il sera beaucoup plus fragile, ça entraîne beaucoup de choses. C'est-à-dire, et soit, si jamais je disparais, qu'est-ce qui se passe? Qui s'occupe d'elle? Donc on essaye de créer un cercle de sécurité pour la protéger. Et il y a plusieurs phénomènes. D'abord, ça vous prend énormément de temps, c'est un job à plein temps. C'est très cher. J'en parle, c'est quoi le coût d'un enfant autiste? C'est un truc de riche. Et ça conditionne toute votre vie. Ça crée des parents guerriers, forcément.
Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des parents qui sont paumés à ce moment-là, quand ils l'apprennent, quand ils le découvrent, quand on leur confirme. Vous étiez paumé, vous?
Moi, c'est une chose qui m'a énormément ému, c'est que tout d'un coup, sa mère... c'est un diagnostic rapide, mais quand on est sorti du cabinet du pédopsychiatre spécialisé sur le domaine, elle a comme eu un cri... de douleur qui disait jamais ma fille n'ira dans un hôpital psychiatrique. Et elle avait tout dit. C'est-à-dire la guerre était déclarée, quoi. Et après, ensuite, c'est une bataille de tous les jours. Mais c'est ça l'enjeu. C'est une course contre le temps. C'est le plus jeune possible, le plus souvent possible, pour stimuler l'enfant. Et donc, c'est un long travail pour apprendre à l'enfant à hiérarchiser, à recommuniquer, à comprendre l'autre, comprendre nous aussi nos émotions. C'est-à-dire que un visage qui sourit n'est pas lu de la même façon pour un enfant autiste. Ça me paraissait un chemin complètement dingue et qui... C'est-à-dire que j'ai pas mesuré à quel point ça pouvait vraiment faire la différence. Et aujourd'hui, le fait qu'elle soit scolarisée en CE1, c'est complètement miraculeux. Quand je pense que je la découvrais dans sa chambre en train de se taper la tête contre les murs, c'est très effrayant, en souriant, qui plus est. C'est très effrayant pour un parent de voir son enfant s'automutiler. C'est quelque chose qui perturbe énormément et on a le sentiment qu'on est dans des abysses et on n'en reviendra jamais. Et puis les choses se font, c'est dingue. Donc c'est le plus jeune possible parce que le cerveau est encore malléable et c'est là où il faut lui donner les bons chemins. Ensuite, pour faire le reste de l'histoire, c'est l'inclusion à l'école. Et ensuite, je vais devoir faire ça à l'adolescence. Là, c'est le mystère absolu, la découverte de la sexualité, les histoires d'amour. Parce qu'elle va être amoureuse. Et comment on va faire? La cruauté des enfants, la cruauté des jeunes qui veulent s'affirmer et qui sont énormément en compétition les uns les autres. Donc, ils n'hésitent pas à prendre un bouc émissaire pour sentir plus fort aussi. Donc, lui apprendre à être plus forte, plus indépendante, à être sûre d'elle, à savoir qu'elle est aimée. Et puis l'âge adulte ensuite, quelle place on a dans la société? Est-ce qu'on peut travailler? Donc l'inclusion dans le travail aussi. Je veux dire, c'est pour ça que ça s'appelle un bonheur que je ne souhaite à personne. On peut souhaiter à personne de vivre quelque chose comme ça, mais en même temps, à quel point ça vous fait grandir, à quel point ça sort le meilleur de vous-même, c'est des vraies leçons de bonheur.
Merci d'en avoir parlé avec cette franchise, en tous les cas, et cette sincérité. Il faut le lire absolument, je vous encourage à le faire, ce premier roman donc de Samuel Le Billon qui était avec nous ce soir sur RTL. Ça s'appelle Un bonheur que je ne souhaite à personne. Pardon, je suis un peu ému de vos propos. ce roman aux éditions Flammarion. Merci d'être passé par chez nous, Samuel Le Mignon.
Merci, merci. Merci.
Belle soirée à vous.